Vous êtes sur RTL.
Bonsoir Marc.
Bonsoir.
Bonsoir et bienvenue.
Merci, merci beaucoup. Donc en fait, voilà, je vous appelle parce que je pense que ma copine est bipolaire. Enfin, ma compagne est bipolaire. Voilà.
Qu'est-ce qui vous fait pencher vers ce diagnostic?
Alors, déjà, d'une, sa maman était bipolaire.
Oui.
Déjà.
D'accord. C'est pas après, automatique, hein, mais c'est, il y a des, on retrouve des antécédents voilà. familiaux, il est vrai. Oui.
C'est ça, exactement. Après, j'ai parlé beaucoup au médecin, à mon médecin traitant.
Oui, d'accord.
Parce que bah, je vous explique un petit peu, voilà, ça fait 13 ans qu'on est ensemble.
Oui. Elle a
donc,
quel âge?
37 ans.
37 ans, d'accord. Oui, vous l'avez connue jeune.
Oui. Hmm oui, oui. Et moi aussi, j'ai 37 ans.
D'accord.
Donc voilà, ouais, ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Et c'est vrai que c'était une relation au début très, très bien.
Oui.
Mais après, par la suite, ça a commencé à être compliqué. Surtout par rapport avec les fréquentations qu'elle avait.
Ah bon? Quel genre de fréquentation vous inquiétez?
Ah oui, je m'inquiétais beaucoup parce que c'était des fréquentations pas saines. Ça veut dire qu'elle se faisait elle se faisait avoir par ces gens-là. Hmm. Ça veut dire qu'elle était trop gentille. Ça veut dire que tout ce qu'on lui demandait de faire, elle faisait.
Oui, elle se liait très facilement et elle était
un peu naïve dans ses échanges. Exactement ça. Mm.
Donc influençable, vous voulez dire.
Voilà,
aussi.
Influençable. Oui, j'arrivais pas à trouver le mot.
Oui.
Donc ça a été très compliqué avec ces personnes-là. Donc comme elle les suivait partout, c'était le soir, ils sortaient tout le temps, enfin toute la journée, enfin journée et soir.
Au début de votre relation, quand vous étiez jeune, oui. D'accord.
Oui, tout au début. Mm-hmm. Et quand moi je lui disais que je me sentais mal, en fait, elle était méchante avec moi. Mm. Ça veut dire qu'elle m'insultait.
Oui.
Avec ses amis, enfin, ils ont été très très durs avec moi. Mm. Ils m'ont beaucoup rabaissé. Donc ça a duré quand même. Ça a duré quand même pas mal de temps. Au moins un an et demi.
Et oui, qu'est-ce qui fait que vous avez tenu? Parce que là, c'était le début de votre relation. Vous auriez pu dire, oh là là,
oui,
ça
j'ai
ne
tenu,
convient pas.
J'ai tenu parce que je l'aimais.
Oui.
Et quand je m'accroche à quelqu'un, voilà, j'essaie de... Enfin, je fais mon possible. Parce que j'arrêtais pas de lui dire que c'était pas des personnes pour elle. Donc, au bout d'un an et demi, comme je disais tout à l'heure, elle a compris que ce n'était pas des bonnes personnes. Mais là, on s'est fait encore plus insulter que la première fois.
Quand vous dites « on s'est fait insulter », c'est-à-dire qui s'est fait insulter?
Ma copine et moi-même.
Mais par qui? Par ces personnes?
Par ces personnes-là.
D'accord, mais bon, donc ça c'était au début de votre relation, mais qu'est-ce qui... Puisque je reviens sur vos premiers mots, vous pensez qu'elle serait bipolaire. Qu'est-ce qui, dans son comportement, aujourd'hui, ou peut-être depuis quelque temps, vous fait penser à cela?
Alors, elle a un changement de comportement, mais impressionnant. Ça veut dire qu'elle peut être très gentille, et au bout de... Et deux minutes après, m'engueuler, mais très méchamment.
Oui, mais ça, c'est pas un signe de bipolarité, hein, forcément. Enfin, vous voyez, c'est...
Oui.
Oui.
Il peut
y avoir de l'agressivité, mais qui n'est pas liée. Est-ce qu'elle a des épisodes de dépression assez profonde et puis par moments des états où elle est très exaltée, très euphorique?
Alors c'est pour ça, c'est qu'il y a eu, il y a à peu près 6 ans, elle a eu une période comme ça pendant 2 mois où quand je rentrais du travail, elle était devant la télé complètement, mais vidée. Et ça, au début, je me posais la question et ça a duré 2 mois. Ça a duré 2 mois comme ça, où tous les soirs je rentrais,
Elle rentrait du travail, elle aussi ?
Non, moi.
Et elle, elle ne travaillait pas ?
Non, elle ne travaillait pas.
D'accord. Donc, vous la sentiez un peu ailleurs, quoi. Un peu,
oui, mais complètement.
D'accord.
Bon. Complètement. Donc, je
faisais. Vous en avez parlé avec elle ? Vous lui avez demandé ce qui se passait ?
Oui, mais elle ne parlait pas.
D'accord.
Elle était complètement. Je ne sais pas. Elle ne me parlait pas à ce moment-là.
Bah, deux mois, c'est long sans parler.
Mais oui. Mais oui. Ça a été deux mois comme ça. Donc, c'était très dur. Après, oui, elle a des moments complètement euphoriques. C'est-à-dire qu'elle peut être très bien, et tout d'un coup, elle se lève, elle se met à danser, sans explication aucune. Alors, c'est vrai que c'est quand même très, très surprenant.
Alors, vous savez, Marc, ce qui est,
oui.
Il est difficile déjà de poser un diagnostic.
Oui.
Quand on a la personne en face de nous, ça ne se fait pas en une fois, souvent, si on est sérieux, à moins que la personne soit dans une crise aiguë. Hein, où les symptômes sont vraiment très majeurs. Et alors, je vais vous dire, je ne sais pas ce que vous attendez de moi ce soir, mais il n'est encore impossible, et ça serait même incorrect, de poser un diagnostic sur une personne qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas rencontrée. Donc, moi, je vais avoir du mal à vous, finalement, à confirmer ou infirmer votre point de vue, mais c'est vous qui m'appelez. Et finalement, moi je m'intéresse là à vous, c'est-à-dire comment j'imagine que pour vous tout cela est très difficile à vivre aujourd'hui, où en êtes-vous, comment vous sentez-vous, vous, enfin, vous voyez, c'est de ça dont on peut parler peut-être.
Oui, on peut parler de ça. Donc, en fait, avec ma compagne, on s'est séparés en 2019.
D'accord.
À cause de son comportement agressif.
Oui.
Elle a porté plainte contre moi.
Elle a porté plainte.
D'accord. Oui.
Pour quelle raison ?
Pour coup.
Pour coup, d'accord.
Oui.
Vous aviez eu un accès de colère ?
En fait, quand elle était dans des crises comme ça, ou quand elle était méchante, à la fin, je ne savais plus comment gérer.
D'accord.
Et quand je voulais sortir dehors pour me calmer, elle était devant la porte en me disant « Tu sortiras pas, t'es un bébé, tu pleures, enfin, etc. »
Elle vous provoquait, elle continuait
Oui, elle me provoquait énormément. Et c'est vrai que oui, ça m'est déjà arrivé que lui mette une claque. Pourquoi ? Parce que j'arrivais plus à gérer.
Si c'était une claque, j'imagine que la plainte n'a pas été retenue. Je ne dis pas que c'est bien de se donner des claques, mais enfin, il y a même des paliers dans la violence. Donc, j'imagine que ça a été classé sans suite.
Bah, en fait, c'était quand on est parti en vacances, c'était au mois d'août, c'était le retour des vacances qui était très compliqué. En fait, pour
en
moi,
2019, c'est ça ?
En 2019, août 2019.
Oui.
Elle était complètement euphorique.
Mm-hmm.
Tout ce qu'on lui disait, enfin tout ce que je lui disais, elle ne voulait pas écouter. C'était toujours de ma faute. Et donc, quand on est reparti sur la route pour rentrer chez nous, ça a été toute la route que des cris.
Oui.
Elle me criait sur moi, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'en ai eu marre, j'ai voulu téléphoner à mon meilleur ami. Et quand elle a vu ça, elle a pris mon portable et elle l'a balancé. Donc on s'est arrêté, j'ai pu reprendre mon portable. Et quand elle a vu que j'avais repris mon portable, elle m'a serré le bras, mais ses ongles sous la peau. Et elle m'a mordi en plus.
Et vous continuiez à conduire ?
Non, là je conduisais plus là.
Non,
je n'y arrivais pas. Et pendant qu'on est arrivé sur une autoroute, donc c'était les bouchons, moi je pleurais, et je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, elle a commencé à klaxonner et dire « au secours, au secours ».
D'accord.
Donc là, je me suis retrouvé un peu très très mal, parce que je ne faisais rien du tout. Et
alors c'est après cela qu'elle a porté plainte, c'est ça ? J'essaye de suivre là,
oui,
c'était en août 2019.
Oui, c'est ça.
Bon, le retour de vacances, donc, il s'est très mal passé.
Oui.
D'accord.
Donc, elle a porté plainte contre moi pour le mois d'août.
D'accord.
Mais elle a porté plainte contre moi pour le mois d'octobre.
D'accord. Ah, parce que vous êtes restés ensemble malgré la plainte de déposer.
Non, parce que j'étais partie.
Oui.
Mais là, j'avais une semaine de vacances, donc j'étais revenue pour mon fils.
Vous avez un fils qui a quel âge ?
4 ans et demi.
D'accord.
Donc, j'étais revenue pour le voir. Donc, pendant une semaine, j'étais chez elle. Mais continuer dans ses cris de me rabaisser. Et je lui ai dit un jour, de toute façon, je vais t'enregistrer. Tellement que j'en avais marre. Et là, elle m'a sauté dessus. Mmh. Elle m'a mordu, enfin, elle m'a craché dessus.
D'accord.
Donc, tout de suite après, je suis parti.
Bah, c'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Hein.
Voilà.
Il faut s'éloigner. Et le petit garçon, là, au milieu ?
Oui.
Parce que lui, il assiste à tout ça ?
Oui.
Bah, oui. Il y a lieu et de ça, le protéger.
Je...
Hein.
Je fais de mon mieux.
De quelle façon, aujourd'hui ?
Bah, là, aujourd'hui, c'est dur. Enfin, c'est
qu'est-ce qui est dur,
dur. Parce qu'après qu'elle ait porté plainte, donc j'ai eu rendez-vous à la gendarmerie.
Oui, bien sûr.
Et en fait, j'étais surpris, parce que je savais bien que je n'avais rien fait. Donc, bah, j'ai été interrogé, mais la plainte a été classée sans suite.
Mm-hmm.
Parce qu'il n'y avait pas de preuves. Donc, après ça, je suis retourné avec. Même avec ce qui s'était passé.
Et ça a recommencé.
Et ça a recommencé
évidemment.
Voilà, ça a recommencé de plus belle.
Mais vous êtes toujours amoureux d'elle ?
Mais c'est ça, le truc.
Oui, parce qu'on vous sent très affecté quand vous en parlez, des faits qui remontent à 2 ans aujourd'hui.
Ouais.
Et finalement, vous cherchez toujours à comprendre les raisons de son comportement. Alors, je ne sais pas pour quelles raisons elle agit ainsi. Seule elle pourrait le dire.
Oui.
Mais en revanche, vous, je me demande qu'est-ce qui fait que vous restez dans une relation... à l'évidence, qui vous fait du mal, qui lui fait du mal,
oui.
Avec un petit garçon au milieu. Enfin, vous voyez, quand on arrive à un niveau de violence où il y a des insultes, où on s'en prend physiquement à l'autre, enfin, à un moment, la raison veut que l'on s'éloigne pour se protéger. Parce que... Enfin, vous voyez, il y a un moment...
Je comprends, mais je ne sais pas pourquoi je m'accroche autant
oui,
que ça.
La question, elle est là, Marc.
Moi,
pourquoi vous vous accrochez ?
Je m'inquiète pour elle, en fait.
Oui, mais vous ne pouvez pas la soigner à son corps défendant. Hein. Ce qui m'inquiète, hein, je ne vous cache pas, en vous écoutant, c'est votre petit garçon dans l'histoire. Parce que vous êtes tellement pris dans cette histoire conjugale, dans vos sentiments, dans votre amour pour elle, que vous en oubliez un peu, comme souvent le cas quand on est débordé par une histoire de couple, que vous en oubliez un peu les responsabilités que vous avez vis-à-vis de cet enfant, qui lui n'a rien demandé.
Mais non, qui n'a rien demandé.
Et si vous voulez être... On sait aujourd'hui à quel point des enfants qui vivent dans un climat où il y a de la violence, ou des insultes, ou des empoignades entre les parents, même si eux ne sont pas directement concernés au premier chef, ça va jouer sur leur développement psycho-affectif. Ça s'enracine en eux et c'est une façon d'hypothéquer leur avenir.
Oui, d'accord.
Donc, j'entends que là, c'est votre point d'interrogation porte sur votre compagne et sur...
Oui.
Finalement, en gros, vous aimeriez pouvoir la soigner, enfin, pouvoir l'aider. Vous êtes toujours dans cette... semble-t-il, dans cette logique-là.
Mais
vous savez, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne le souhaite pas. Et en tout cas... Peut-être que justement, en tout cas, là, en restant dans une relation de ce type, vous ne l'aidez pas. Vous ne l'aidez pas puisque finalement, avec vous, il s'est mis en place très tôt ce type de relation.
Oui.
Et c'est parfois un événement de vie tel qu'une séparation qui peut amener à se pencher sur soi-même et à prendre en considération son mal-être. Là, au fond, elle a beau jeu de dire que c'est vous qui la rendez dingue, entre guillemets, vous voyez, que c'est votre relation qui va mal, que c'est vous le responsable, c'est vous le méchant.
C'est exactement ce qui se passe.
Le couple, souvent, est un bon exutoire.
Oui.
Vous voyez, plutôt que de... C'est souvent, alors, évidemment, quand on est mal, ça rejaillit sur la relation de couple.
Oui. Hein.
Mais on a beau jeu, dans ces cas-là, c'est humain, de dire, c'est l'autre qui me met hors de moi, s'il me rend malade. Bon, plutôt que de se dire, oui, j'ai un problème, j'ai une difficulté, il faut que je m'en occupe.
Oui.
Donc, souvent, d'ailleurs, quand on arrive à ce seuil, vous voyez, ça interroge, et vous-même, il y a un dépôt de plainte, vous voyez, quand on en arrive là.
Mais oui.
Quand on en arrive là, j'imagine qu'autour de vous, on vous a conseillé, il faut s'éloigner. Au moins pour un temps. Tout le monde, parce que
tout le monde l'a dit. Et tout le monde l'a dit, mais pourquoi tu veux t'accrocher comme ça ?
Pourquoi vous voulez à tout prix soigner cette femme ? Et vouloir qu'elle soit malade, finalement. Alors, peut-être qu'elle l'est. Je vous dis, moi, je ne peux pas répondre à cette question. Parce que peut-être qu'au fond, ça serait plus acceptable pour vous. C'est-à-dire que ça, c'est moins culpabilisant aussi de se dire c'est pas notre relation qui est en cause, c'est elle qui a un problème. Ce qui est possible, d'ailleurs, Marc. C'est possible.
Oui, parce qu'en fait, j'ai été hospitalisé l'année dernière.
Oui.
Pendant 15 jours.
Oui.
Parce que je ne pouvais plus.
Oui, vous qui vous effondriez.
Oui, parce qu'en fait, tous les jours, c'était de la répétition.
Oui, quel genre de répétition ?
Quand je rentrais du boulot, elle me disait, on m'a séduit.
On m'a séduit ?
On m'a séduit.
Ah oui, et elle voulait provoquer votre jalousie.
Voilà, provoquer la jalousie.
Oui. C'est très puéril, c'est très immature.
Ouais, donc elle n'arrêtait pas de dire ça, mais c'était 10, 15, 20 fois par jour.
Oui.
Juste après mon travail.
Oui.
Et en plus, comme je fais un travail assez compliqué, donc...
Oui.
Voilà, j'ai pas... Je voulais pas ça.
Ça vous rend malheureux, en fait.
Ah oui.
Et quand vous avez été hospitalisé, c'est parce que vous avez craqué ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Oui, j'ai craqué.
De la dépression, qu'est-ce que...
Oui, c'est une dépression.
D'accord.
Donc j'étais en arrêt 3 mois.
D'accord.
Donc j'ai été suivi par des psychiatres.
Oui, vous continuez à l'être aujourd'hui ?
Maintenant, je suis suivi par un psychologue.
Oui.
Voilà.
Bon.
Et c'est vrai que ça me fait beaucoup de bien. Ça me libère.
Ben oui, vous avez besoin de parler, vous avez des choses à dire, parce que cette relation vous rend malade, vous rendez malade, tout au moins.
Mais complètement.
Vous voyez ?
Complètement.
Donc il faut partir de vous, là. Enfin, ça vous rend malheureux et
oui, ça me rend malheureux.
C'est insupportable, ce que vous décrivez, enfin.
Mais c'est... Voilà, même là, en ce moment, je ne suis pas avec elle.
Oui.
Mais elle continue, même si on ne se voit pas.
De quelle façon ? Par téléphone ?
Oui, par téléphone, par message.
Elle vous envoie des messages ? Quel type de message ?
En fait, un exemple, quand je pleurais, puisqu'après ma dépression, j'étais avec elle.
Et vous êtes rentré chez vous, avec elle ? Oui.
Oui, parce que j'ai nulle part où aller.
Oui.
Et quand je suis... Quand j'étais là-bas, mais continuer. Et là, à ce moment-là, elle me foutait dehors. Elle prenait mon portable et elle me foutait dehors. Elle fermait tout à clé.
D'accord.
Donc, je pouvais rester des fois 6 heures dehors.
Oui, mais ça ne va pas, Marc. Vous voyez, je suis désolée, à ce moment-là, on va à l'hôtel, on trouve en attendant de trouver un point de chute, parce que là, c'est de la maltraitance. Enfin, à un moment, voyez-vous, ce que je dis encore une fois, votre petit garçon, il est au milieu de tout ça et lui, il ne peut pas partir. Oui. Vous, là, vous voyez bien, elle pousse le bouchon, elle vous provoque, elle vous insulte, et vous revenez. Vous revenez, comme si, voyez, et finalement, il y a une surenchère.
Ouais.
Donc à un moment, il faut vous protéger quand même. Enfin,
Oui, non, mais je comprends très bien.
Vous voyez, parce que ça ne peut pas, la relation ne peut pas s'arranger comme ça.
Ah non, c'est sûr.
Bon, or, tout ce que vous pouvez faire pour le moment, c'est vous éloigner, vous protéger.
C'est ce que tout le monde me dit. C'est ça. Et j'arrive pas encore à ce... J'y pense, mais j'y arrive pas.
Bah, le problème, c'est que vous êtes en train de tout déplacer sur elle... comme si vous... Alors d'abord, on ne peut pas, quand bien même vous seriez psychiatre ou psychanalyste, vous ne pourriez pas soigner votre compagne.
Non.
Bon, c'est pas possible hein, de... d'être thérapeute de son conjoint. Et finalement, vous déplacez le problème. Au lieu de prendre soin de vous, vous voulez prendre soin d'elle, qui elle, finalement, vous rabaisse, vous humilie, vous insulte. Est-ce que vous avez déjà vécu des situations comme cela par le passé, où au fond, on vous dévalorise, on vous déprécie et vous...
Non.
Vous avez déjà, enfin, dans votre famille, à vous, vous avez vos parents ou quelqu'un qui était un peu fragile psychologiquement, que vous avez voulu aider ou... Déjà, qu'est-ce qui fait que vous voulez vous mettre à tout prix dans cette position de...
Bah en fait,
de soigner l'autre.
En fait, peut-être par rapport à mon travail que je fais.
Qu'est-ce que vous faites comme travail ?
Je travaille dans le médico-social.
Oui, mais vous êtes au contact avec des patients, donc ?
Des personnes en situation de handicap.
D'accord. Et vous les prenez en charge humainement, c'est-à-dire vous les accompagnez ?
Oui, c'est ça. Oui. En fait, je les accompagne dans le travail.
D'accord. Et vous arrivez, là, à continuer dans votre travail ?
C'est ça qui me tient.
D'accord, bah c'est bien ça. Ça, c'est une bonne chose. Mais vous voyez bien, Marc, en faisant déjà ce métier qui demande, qui est exigeant, où vous donnez beaucoup de vous-même.
Énormément.
Il serait important que vous ayez dans votre vie privée un lieu pour vous ressourcer. Or, finalement, c'est comme si la maison était le prolongement du travail et que à la maison, vous voulez aussi prendre en charge.
Oui, c'est ce que les psychiatres à l'hôpital m'ont dit.
Et vous voyez. Donc, c'est là-dessus qu'il faut... c'est sur ce terrain-là, un peu, qu'il faut vous pencher. Parce que ça va vous ramener à vous. À ce qui, dans votre histoire, a fait que, au fond, vous savez prendre soin des autres. Vous en avez fait votre métier, très bien, puisque, semble-t-il, vous dites « ça me tient », et je comprends qu'en ce moment, ça vous permet de garder le cap. Vous savez prendre soin, mais vous savez, parfois, le problème des soignants, c'est que on prend soin des autres et on s'oublie soi.
Mais oui.
Et là, c'est ce que vous êtes en train de faire.
C'est ça.
Et en plus, vous, dans votre métier, hein, vous seriez confronté à quelqu'un que vous rencontrez dans votre pratique qui vivrait une relation de couple telle que celle que vous me décrivez, Marc.
Oui.
Je pense, je suis à peu près certaine que vous seriez le premier à lui dire « protégez-vous ».
C'est exactement ça, oui. Mmh. Mais oui.
Parce que là, vous allez au-devant des coups même symboliquement.
Oui.
Et en fait, vous, vous faites du mal, et en plus, vous ne l'aidez pas, elle. Parce qu'elle est dans sa colère, elle se déverse contre vous, alors colère qui certainement a trait à son histoire, et peut-être, effectivement, qu'elle est atteinte de troubles psychologiques. Vous voyez, vous avez peut-être raison, ça, je ne peux pas...
Après, je ne suis pas vraiment le seul. Pardon, je vous coupe, je ne suis pas vraiment le seul à le dire. Enfin, il y a le médecin traitant. Enfin,
oui. Non, mais moi, je vous ai dit, je vous ai expliqué quelle était ma démarche, vous voyez. C'est-à-dire que, d'abord, à l'antenne, je ne suis pas là pour poser des diagnostics, parce que ça serait complètement aberrant. Quelqu'un qu'on ne connaît pas, avec qui on échange, et encore plus de quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré. Mais donc, je vous crois, hein, je vous crois que certains spécialistes et peut-être les psychiatres avec lesquels vous avez parlé à l'hôpital vous ont dit que il se pourrait qu'elle ait des troubles bipolaires, mais vous ne pouvez pas la soigner, vous. C'est-à-dire que d'abord, et peut-être que quand elle sera seule d'ailleurs face à elle-même, elle n'aura plus. Elle ne pourra plus se voiler la face et dire que c'est vous qui la rendez malade.
D'accord.
Là, finalement, c'est vous, vous faites du mal, elle, elle ne va pas mieux, et vous avez un petit garçon au milieu, finalement, dont, comme souvent, quand on est empêtré dans une relation de couple qui fait souffrir, les enfants sont un peu négligés, d'une certaine façon, vous voyez, psychologiquement.
Oui. D'accord.
Vous vivez où actuellement? Parce que vous avez réussi à partir quand même, si je comprends bien.
Oui.
Vous avez un appartement? Ah, vous êtes revenu chez votre maman?
Oui.
Qu'est-ce qu'elle en dit, elle?
Bah, c'est compliqué.
Pourquoi?
Oui, elle aimerait que je parte aussi. Enfin, que je
oui, parce que revenir chez votre maman, c'est du provisoire. C'est pas prendre un appartement alors que vous en avez les moyens.
Ah oui, j'en ai bien.
Vous avez les moyens, vous travaillez, vous pourriez... Alors, vous pouvez recevoir votre petit garçon chez votre maman, elle doit être ravie, j'imagine, et lui de voir sa grand-mère. Mais c'est comme si vous étiez un peu en stand-by, quoi.
Oui, bah, c'est ça. Exactement ça.
Oui.
Je suis totalement en stand-by. Oui, c'est ça.
Bon. Il faut, alors écoutez, pour le moment c'est comme ça, et c'est bien que vous puissiez avoir... ça se passe bien? Vous vous entendez bien avec votre mère?
Oui, ça va.
Oui. Que pour le moment, y a encore des choses à travailler, au fond, sur ce qui vous amène à prendre soin des autres en vous négligeant, vous, à ce point-là.
Mais oui.
Et quand vous irez mieux, vous verrez. Pour le moment, il y a... Mais là, les messages qu'elle vous adresse, vous voyez, c'est-à-dire qu'au fond, elle-même a du mal, elle ne vous aide pas à vous séparer. C'est-à-dire que quand vous êtes ensemble, elle vous agresse, elle vous parle d'autres hommes, enfin, elle n'a de cesse de vous faire réagir.
Oui.
Et quand vous vous éloignez, finalement, elle vous envoie des messages, non-stop.
Voilà.
À un moment, qu'est-ce que vous lui répondez d'ailleurs à ces messages?
Non.
Vous avez raison. Vous avez raison.
Il y a des moments oui, et il y a des moments non.
Oui.
Voilà. Là, c'est vrai que les seules vraiment discussions qu'on a, c'est pour notre fils.
Oui, il vit avec sa maman, là?
Oui, oui.
Quand elle est seule avec lui, comment elle est avec votre petit garçon? Est-ce qu'elle est plus calme quand elle est seule? Peut-être.
Oh oui. Oui, je dirais quand elle est plus calme.
C'est rassurant.
Oui.
Avec lui, elle n'a pas d'accès de colère
Non.
Non.
Bon. Non, mais il y a peut-être un peu de...
Je vous entends mal, Marc.
Ah, pardon. Vous m'entendez mieux?
Oui.
En fait, pour moi, il y a un peu de manipulation.
C'est-à-dire?
Quand je pleurais, quand elle me criait dessus...
Oui.
Gabriel était à côté et moi je pleurais. Et là, elle disait à mon fils,
oui.
Surtout Gabriel, va-t'en, va-t'en, papa il est méchant, casse-toi.
C'est insupportable pour ce petit, c'est insupportable.
Et là, ça
vous êtes tellement dans votre détresse que vous ne mesurez pas là à quel point pour ce petit c'est insupportable. Vous vous rendez compte, ce petit garçon? Il voit son papa pleurer. Un petit enfant, quand il voit les parents se disputer, souvent, vous savez, le petit enfant, c'est normal, de son point de vue à lui, il est au centre du monde, il croit que c'est à cause de lui que papa et maman se sont fâchés ou se disputent. Et puis là, finalement, qu'est-ce qu'on dit de son papa? Il est méchant, il est... Et lui, qu'est-ce que vous voulez qu'il comprenne dans sa petite tête du haut de ses 4 ans?
Mais il peut pas.
Sinon qu'il y a des cris, il y a des disputes, et puis peut-être que c'est au fond parce qu'il n'est pas gentil, ou parce qu'il a fait une bêtise, ou parce que vous voyez.
Ouais.
Il faut le protéger, ce petit-là.
D'accord. Ok.
Vraiment, il faut en prendre soin.
Je fais de mon mieux, je fais tout mon possible.
Oui, mais pour le moment, justement, revenir avec sa mère et vivre des situations comme celles que vous vivez, c'est inenvisageable.
D'accord.
C'est un témoin. Hein. C'est un témoin, mais il n'est pas que témoin, si vous voulez. Lui, il imprime tout ça dans sa petite tête.
Hein. Oui.
Bon. Donc là, il faut vous retaper, vous. Physiquement, psychologiquement. Pour retrouver déjà, pour être moins triste, et puis pour redevenir un père pour ce petit. Vous me parlez de votre maman, d'ailleurs, votre père à vous.
Je ne l'ai jamais connu.
tiens donc.
Non, non, je ne l'ai jamais connu.
Et pour quelle raison ?
Il est parti quand j'avais un an.
Il a quitté votre mère ?
Oui.
Et il ne s'est plus manifesté dans votre vie ?
Du tout.
Vous savez pour quelle raison ? Pourquoi qu'est-ce qu'elle vous en dit, votre mère ?
Bah, je sais qu'il est, il est parti parce que...
Parlez bien, bien en face du téléphone.
Pardon, désolé. En fait, il est parti parce qu'il a, il buvait.
Oui.
C'est quelqu'un qui buvait beaucoup.
Oui.
Il avait arrêté de boire. Mm. Et quand il a repris, il est parti, en fait.
Oui, il allait mal.
Voilà.
Il allait mal. Vous savez ce qu'il est devenu ?
Alors, je sais, il est décédé. Hein.
D'accord. Comment l'avez-vous appris ?
Par ma maman.
Ah, elle avait gardé un lien, quand même ?
Non, pas du tout. Non, non, je crois qu'on l'a su... On l'a su bien après.
Oui.
Parce qu'on avait besoin, enfin maman avait besoin d'un papier, et le papier, c'était écrit qu'il était décédé.
Ça a dû être dur pour votre maman. Elle est à côté ? Elle écoute ?
Oui, elle est pas loin.
J'ai entendu une voix. Ça a dû être dur pour elle de se retrouver seule avec un petit garçon. Et finalement, c'est l'alcool qui a tout détruit, là.
C'est ça, exactement.
Oui. Vous êtes. Y avait d'autres enfants ou vous êtes fils unique ?
Non, non, j'ai un frère et une sœur.
Oh là là. Vous êtes.
Ils sont plus âgés que moi.
Ah oui, donc elle s'est retrouvée avec trois enfants.
Oui.
À élever.
Oui. Enfin, après, moi, c'était autre chose. Moi, je me suis retrouvée chez les cousins de ma maman, placée en sardine de confiance.
Ah oui. Et pourquoi, si c'est pas indiscret ?
Parce qu'en fait, ma maman était malade.
Ah, d'accord. Elle pouvait plus s'occuper de vous.
C'est ça, exactement.
Elle va mieux aujourd'hui ?
Non, c'est encore compliqué.
C'est compliqué. Et vous aviez quel âge quand vous avez été placé chez ses cousins ?
2 ans.
Ah, vous étiez tout petit ?
Oui.
Et vous y êtes resté jusqu'à quel âge ?
Jusqu'à 17 ans.
Ah oui. Mais alors, vous entendiez bien avec ce couple de cousins qui vous a recueilli Oui. Ah oui, bon, longtemps.
Oui. Ah oui, oui.
Oui, ça a été, ils ont tenu lieu de parents, de substituts de parents, puisque vous avez votre maman. Oui.
C'est ça, exactement.
Oui.
Oui.
Oui, mais ça, vous avez une histoire compliquée, hein, Marc.
Oui.
Vous voyez, quand vous dites, au fond, il y a quelque chose autour de la séparation qui, pour vous, bien que cette relation vous détruit, vous fait du mal, vous n'arrivez pas, vous m'avez dit à plusieurs reprises, je ne sais pas pourquoi je m'accroche comme ça, mais parce que dans votre parcours, il y a quelque chose autour de la séparation et de la perte, précocement.
Oui.
Et
oui.
C'est peut-être pour ça que vous avez aujourd'hui finalement des difficultés à protéger votre petit garçon. Mm. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pourrez pas y arriver. Hein. Vous faites en sorte de demander de l'aide, d'être soutenu. Mais peut-être parce que là, il y a quelque chose de votre histoire à vous d'enfant qui ressurgit.
Oui.
Il y a de l'abandon, il y a de la séparation.
Mais c'est vraiment ça.
Et il y a des stades très précoces où on est encore au niveau du non-verbal. Où le tout petit, à 1 an, 2 ans, l'enfant ne peut pas mettre des mots sur ce qu'il ressent. Mais en revanche, un père qui disparaît, qui ne donne plus de nouvelles, qui a été là. Dans cette première année, il était là ou...
Bon, oui et non. Pas trop.
Mais qui laisse une maman certainement désemparée aussi. Et dans un chagrin et dans une inquiétude. Donc quand on est un parent dans le chagrin, dans l'inquiétude, forcément on est malgré soi, bien malgré soi, moins protecteur vis-à-vis de son enfant. En tout cas, protecteur, oui, dans les actes, mais on ne peut pas lui procurer la sécurité affective dont un enfant a besoin, et particulièrement un petit enfant.
D'accord.
Vous voyez ?
Oui.
Et là, il y a quelque chose... je trouve un peu d'un parallèle, hein, mais je peux me tromper. Il y a quelque chose autour de l'abandon, et au fond, cette femme vers que vous aimez encore,
oui.
mais vers qui vous allez à chaque fois, vous vous prenez du rejet en pleine figure.
Mais, bah, c'est exactement ça.
Ben oui. Ben oui.
Oui.
Et ça, il faut vraiment... Enfin, j'imagine que vous en parlez à votre psychologue.
Oh, beaucoup.
Beaucoup. Bon, ben ça, vous, oui. allez, vous allez progressivement, finalement... combler aussi certainement ce manque qui est en vous. Et voyez, quand je vous demandais si dans votre histoire familiale, vous avez dû prendre soin de, d'un parent peut-être en souffrance, vous me parlez d'une maman qui a été malade, qui l'a encore aujourd'hui, d'un père qui avait des problèmes d'alcool, donc qui n'a pas pu être un père pour vous, parce qu'il était, lui, très en souffrance.
Oui.
Vous voyez, il y a quelque chose là dans votre histoire.
Oui, toute une accumulation.
Oui. Oui.
D'accord.
Donc le travail de thérapie va vous aider à finalement faire en sorte que ce manque soit moins douloureux et que, au fond, la perte affective, vous puissiez la surmonter parce que vous allez travailler un peu sur ce qui s'est passé dans votre histoire d'enfant.
Oui.
Et donc combler un peu ce vide, ce manque affectif qu'il y a.
D'accord.
Et il faut vous donner du temps. Et pour le moment, bah, vous protégez en prenant, c'est compliqué, mais sur vous, c'est-à-dire que ce n'est pas bon de l'avoir. Alors, vous devez rester en contact, j'imagine bien, pour votre petit garçon, voilà, mais limiter le plus possible les contacts et plutôt que d'aller dans l'appartement où vous pouvez même vous retrouver dans un lieu neutre, un peu style café. Vous voyez, parce qu'il est petit, il ne peut pas venir tout seul, évidemment, chez votre maman. Mais évitez la maison, enfin, le lieu où vous avez vécu.
Le lieu. D'accord.
Pour vous, je sais bien que c'est compliqué, mais à ce moment-là, faites-le pour lui, Marc.
Oui.
Vous voyez, pour qu'il ne soit pas témoin de scènes comme ça qui l'affectent, même s'il ne le manifeste pas. Et dans un café ou dans un lieu... On peut moins faire des scènes, vous voyez quand même, c'est plus limité.
C'est ce que j'étais en train de penser.
Et puis vous prenez votre petit garçon et vous l'amenez le temps d'un week-end, vous voyez.
Oui.
Et dites-vous que pour le moment, c'est pour vous protéger.
D'accord.
D'accord.
Ok.
Hein? Parce que c'est ça la priorité.
Oh oui.
Bon. Je vous embrasse, Marc.
Ben, merci beaucoup.
Prenez soin de vous.
Merci.
Et puis du petit aussi.
J'y tiens.
Au revoir, Marc.
Parlons-nous, Caroline Dublanc sur RTL.